Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir d'accueillir un duo d'auteurs, Jean-Luc Buchalet et Pierre Sabatier, pour la parution de leur livre La Chine, une bombe à retardement, qui paraît chez Erol, avec un sous-titre tout à fait clair, bulle économique, déséquilibre, sociaux, menaces environnementales, la fin d'un système, avec un point d'interrogation quand même. Il y a quand même un point d'interrogation. Messieurs, bonjour. Bonjour à
bonjour.
Tous les deux.
Bonjour.
Alors, nous allons rentrer bien sûr dans le détail de votre ouvrage. Avant, je voudrais rapidement vous présenter. Vous êtes l'un et l'autre deux économistes confirmés, spécialistes de la finance. Jean-Luc Buchalet, vous êtes un expert de la zone asiatique. Vous avez fondé et vous présidez Pythagore Investissement, société de gestion alternative, et vous enseignez au CNAM, à Assas et à l'IAE de Panthéon-Sorbonne. Alors, vous êtes en plus essayé récemment à la forme romanesque en faisant paraître chez Editea un ouvrage, La Chine, la face cachée, dans lequel on retrouve précisément des comportements assez particuliers dans l'empire du milieu, en matière sociale, en matière financière, en matière humaine, et tout ceci sous la forme romanesque. Donc cet ouvrage vient juste de paraître. Mais vous êtes aussi un contributeur très pertinent pour les ouvrages du Cercle Turgot, et vous avez contribué notamment à La Chine Amérique et au dernier ouvrage paru par le Cercle Turgot, Rigueur et Relance, toujours chez Erol. Voilà, donc brièvement présenté Jean-Luc Buchalet. De votre côté, Pierre Sabatier, vous êtes ingénieur agronome, tout juste au trentenaire, si mes souvenirs sont bons. Vous présidez le cabinet indépendant de recherche économique PrimeView et vous intervenez régulièrement dans les médias nationaux dans des critiques qui touchent à la fois à l'ensemble des problématiques économiques, mais aussi de société. Vous êtes administrateur l'un et l'autre du Cercle Turgot. Et vous préparez, Pierre Sabatier, une prochaine parution d'ailleurs d'un collectif du Cercle Turgot qui traitera de l'éternel retour de l'inflation et de la déflation chez Erol. Donc ça, c'est pour la rentrée, j'imagine. Donc beaucoup de travaux, beaucoup de réflexions. Et donc la dernière, nous allons y rentrer maintenant, La Chine, une bombe à retardement. Alors, dans cet ouvrage, en fait, vous rassemblez sous ce titre, Une Chine, une bombe à retardement, deux comportements explosifs. Le premier touche à la démographie et le second à l'investissement. Autrement dit, la croissance qui se ralentit, etc. Donc, on va peut-être revenir déjà sur ces deux premiers points. Premier élément de cette bombe à retardement, la démographie. Alors, Jean-Luc, peut-être...
Alors, juste pour revenir sur la difficulté d'analyser une économie de bulle, on le connaît par le passé, puisqu'on a eu l'exemple du Japon, on a eu l'exemple des États-Unis avec la crise des subprimes. C'est-à-dire qu'une bulle, en général, dure beaucoup plus longtemps que prévu. Et d'autre part, vous avez un mouvement, bien entendu, convergent, où l'ensemble des acteurs vont toujours en direction de la bulle, puisque par définition, si les avis étaient contraires, la bulle ne se serait pas constituée. Et donc, la difficulté, lorsque vous travaillez sur ce genre de sujet, et le cas de la Chine, qui est quand même maintenant la deuxième puissance industrielle mondiale, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, on aurait certainement pu le dire il y a 2 ans. Et ce que vous dites aujourd'hui par rapport à 2 ans, c'est qu'il y a 2 ans, vous étiez complètement inaudible. Aujourd'hui, notre chance fait que les choses finalement sont en train de se retourner, certainement de façon beaucoup plus violente que ce que pas mal d'intervenants anticipaient. Et là, notre message est en train de passer. Alors sur la démographie, Pierre est un peu plus spécialisé dans le domaine et donc je laisserai répondre à cette question.
Alors le problème démographique est d'ailleurs un problème mondial hein, qui n'est pas inhérent qu'à la Chine. Seulement, il est surtout le fait en général des pays industrialisés, des vieux pays européens, américains ou encore japonais. Si la Chine est sujet, et je dirais va l'être encore plus dans les années qui viennent, au vieillissement de sa population également, c'est notamment parce qu'elle a mis en place la politique de l'enfant unique qui va avoir un impact fondamental à la fois sur le niveau de productivité que pourrait espérer le pays, le niveau de consommation des ménages, le taux d'épargne de sa population et devra aussi, donc ça c'est pour le point de vue plus économique, mais aussi devra régler des problématiques sociales inhérentes justement à la politique de l'enfant unique. Au-delà de cette politique de l'enfant unique, elle a préférence pour les garçons à la naissance qui va générer là aussi des tensions puisque le rapport entre hommes-femmes va être très en faveur des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup d'individus auront du mal à trouver une compagne. On sait que lorsque plus les populations sont masculines, plus elles sont violentes. Donc au regard d'un ralentissement économique, on peut s'interroger quant à l'impact sociétal de la politique de l'enfant unique qui va commencer à se faire jour aujourd'hui. Dans les 5 années qui viennent, entre 2010 et 2015, on commence réellement à avoir des effets négatifs du vieillissement de la population lié à un effondrement finalement du taux de fécondité lié à cette politique de l'enfant unique mise en place à la fin des années 70.
Et donc avec des conséquences sur la croissance. Alors certains experts prétendent qu'en deçà de 8% de taux de croissance par an, la Chine serait confrontée à des problèmes sociaux insupportables. On y est, puisque un certain nombre d'observateurs, dont vous, indiquaient qu'il y a un coup de froid sans précédent sur le modèle économique chinois en termes de croissance.
Voilà, alors pour venir sur les derniers chiffres qui ont été publiés, et là encore, la difficulté pour analyser ce type de modèle sans contre-pouvoir, c'est la falsification des chiffres. Lorsque la Chine annonce souvent en début d'année que la croissance devrait être de l'ordre de 10 à 11%, on sait pertinemment que probablement les chiffres sont sous-estimés et que la croissance a été certainement plus élevée de l'ordre de 12 à 13%. Inversement, lorsque la Chine, c'est exactement ce qui s'est passé en début d'année, quand Hu Jintao a annoncé donc une croissance de l'ordre de 7,5%, le tir a été rectifié puisque le ralentissement est beaucoup plus fort, probablement que la croissance est plutôt de l'ordre de 5 ou même peut-être moindre. Alors, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir essayer de redresser les chiffres? On regarde l'évolution de la production d'électricité. Et on essaye de comparer ça avec, puis c'est un pays qui est essentiellement industriel, puisque l'industrie représente à peu près 50% de la valeur ajoutée. Et donc, les chiffres qui ont été publiés officiellement par le gouvernement étaient de 9,3% en rythme annuel avril sur avril, par rapport à 2011. Les chiffres sur l'électricité, on est à plus 0,7%. Sachant que le premier semestre 2011 et le deuxième semestre de l'année 2011, c'était passé avec le rebond qui était dans le prolongement de l'orgie de crédit qui avait été fait auparavant. Donc on est vraiment dans un ralentissement qui est brutal, qui touche tous les secteurs et qui sont en train de montrer que le système arrive à bout de souffle.
Pierre, oui, Sabatier. Pour rebondir, ça va tout à fait dans le sens. Et d'ailleurs, le ralentissement sera d'autant plus fort que le surinvestissement initial a atteint des proportions inédites dans l'histoire économique. On connaît d'autres économies de bulle, hein, des économies qui ont émergé de manière absolument fulgurante en quelques décennies. On a eu le cas de la Corée, du Japon ou autre. Jamais nous n'avions atteint un tel degré de surinvestissement que dans l'économie chinoise d'aujourd'hui. Nous sommes des gens relativement factuels et on aime bien s'appuyer sur les chiffres. Aujourd'hui, le taux d'investissement en Chine pèse à peu près 50% du PIB. Au sommet de leur bulle, que ce soit au Japon ou en Corée, on n'a jamais dépassé 36-38% du PIB. C'est pour vous dire à quel point la croissance a bien sûr reposé sur les exportations, mais a avant tout reposé sur un taux d'investissement extrêmement important. Et malheureusement, plus vous allez loin, plus pour l'année suivante assurer vos 7, 8, 10% de croissance, il faut aller loin, encore plus loin, je dirais, dans le degré d'investissement que vous faites. Mais lorsque vous avez construit vos autoroutes, des immeubles qu'il est difficile aujourd'hui de remplir, vous vous rendez bien compte qu'on atteint les limites en fait, du surinvestissement.
Alors, un problème se pose justement dans l'analyse de ces statistiques, c'est que beaucoup de gens se disent, comme à l'exemple de ce qui s'est passé en 2009, où vous avez un effondrement de la croissance mondiale, et donc si on prend le pays qui est juste à côté, le Japon, avait une baisse de 8%, et de l'autre côté, vous avez la Chine qui fait plus 9%. Donc ils vous disent, bah, il va se passer exactement la même chose, c'est-à-dire que le gouvernement chinois va avoir la capacité de remettre de l'investissement dans les infrastructures et autres. Alors pour bien comprendre que cette fois-ci on arrive à bout de souffle, je vais prendre un chiffre relativement simple, c'est-à-dire lorsque vous passez par exemple de 100 à 200, vous avez une progression de 100%. Pour pouvoir avoir la même progression, il va falloir passer de 200 à 400. Et puis quand vous avez atteint 400, vous passez de 400 à 800. Et donc les mesures, je redonne les chiffres, donc on arrive à la limite physique, c'est-à-dire qu'il faudrait... Et on connaît donc l'ampleur du plan qui avait été lancé à l'époque en 2009. Entre à la fois le plan sur les infrastructures et la bulle qui s'est constituée sur la dette, on était de l'ordre à peu près de 30 à 40% du PIB. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir atteindre cet objectif de 9%, alors que le ralentissement est quasiment aussi profond que ce qu'on avait connu à l'automne 2009, il faudrait remettre sur la table quelque chose encore de supérieur à ces 30 ou 40% de dette sur le PIB. Et vous voyez bien qu'on arrive... Et alors là, il y a cette incompréhension de pas mal de gens qui vous disent il n'y a pas de problème puisqu'il y a ces réserves de change, donc ils vont nous remettre ça sur la table.
Mais les volumes sont
tellement impressionnants.
Ne le permettraient pas. Alors, vous levez donc le voile largement sur cette énigme de l'économie socialiste de marché, et en nous inquiétant, parce qu'en fait, c'est aussi la grande espérance du reste du monde, et notamment de l'Europe, cette locomotive de la croissance. Alors, va-t-elle pouvoir tirer à nouveau une partie de la croissance ? Va-t-elle se retourner sur son marché intérieur ? Quelle est la situation des banques, entre autres ? Voilà un petit peu les questions que l'on se pose pour l'avenir immédiat.
Alors, pour débuter, justement, ce propos est à la base de la création d'une économie de bulle. C'est qu'elle repose sur une croyance collective, à la limite du mythe, comme on a pu connaître le mythe espagnol, le mythe anglais, au cours des années passées, hein, des années 2000, et avant eux, le mythe japonais des années 80. C'est-à-dire qu'avant toute chose, il y a une croyance collective, effectivement, que les Chinois seront nos sauveurs dans une économie européenne qui vieillit et qui a tant de mal à sortir de son marasme. Donc la réalité, c'est que notre analyse, c'est que ça ne se produira pas. Et qu'aujourd'hui, elle aussi, tout comme nous, mais avec des verrous qui sont différents, elle atteint aujourd'hui ses limites et son espérance de croissance ne pourra pas atteindre ce qu'il a atteint en fait au cours des dernières décennies. Donc à la question, est-ce que la Chine sera notre sauveur ? Clairement, nous répondons non.
Non. Alors, d'autant plus qu'il y a des fractures économiques telles que celles que vous décrivez, mais il y a aussi des fractures sociales, et notamment qui apparaissent à travers, et vous le dites fort justement dans vos propos, une perte de repères inquiétante, qui apparaissent dans le tissu social, et notamment quelque chose qui est assez frappant, qui est le nouveau népotisme des dirigeants. Autrement dit, il y a des richesses familiales, quasi dynastiques, qui se constituent à travers les enfants des dirigeants. Alors aujourd'hui, je reviens sur la France, au moment où on parle d'exemplarité des dirigeants, des salaires des 75%, des 1,5 million, et qu'on a devant nous le modèle dit le contre-modèle communiste, capitalisme totalitaire, on s'étonne de voir que sont en train de se mettre en place des espèces d'empires nouveaux dans la Chine d'aujourd'hui.
Alors, pour bien comprendre le mode de fonctionnement intellectuel de la population, il faut revenir, puisque les dirigeants actuels sont les enfants de la révolution culturelle. Donc, vous passez d'un système où il y avait une haine enseignée à tous les niveaux, et notamment à l'université, de cette haine du capitalisme, et le premier d'entre eux, les États-Unis. Vous basculez dans une espèce de néolibéralisme moyenâgeux de l'autre côté, avec cette fameuse phrase de Deng Xiaoping, qui a relancé la croissance en disant « enrichissez-vous ». Et donc, vous êtes dans une société, notamment avec l'émigration des gens qui ont quitté la campagne pour aller rejoindre les villes où la croissance se situait. Vous avez, en gros, deux types de populations. Une population est celle qu'on a plutôt tendance à voir, puisque en tant que touriste, lorsqu'on va à Shanghai ou dans les coins touristiques, vous avez en gros une classe moyenne qui représente à peu près 130 millions d'habitants. Et cette classe moyenne, relativement au poids dans la Chine, quand vous voyagez, vous les voyez partout, ces gens dépensent énormément. Et on oublie l'autre partie, puisque celle-ci, elle est plutôt à l'ombre, et notamment ces fameux Mingong qui se retrouvent dans des dortoirs où souvent les salaires ne sont pas payés. Et donc, vous êtes dans un système où l'individualisme par rapport à la tradition classique de la Chine a été mis en avant avec ce néolibéralisme et les solidarités se sont complètement défaites. Et donc, vous êtes dans un système impitoyable où, à quel que soit le niveau où on se trouve, vous avez une violence qui est en train de se produire. Et donc tout ça avec le ralentissement économique. Et sans surprise, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'au moment où la succession est en train de se faire à la tête du pouvoir, est très importante puisqu'il y a le renouvellement du Politburo, on s'aperçoit que, contrairement à ce que beaucoup de gens imaginaient, et il y a un lien direct avec le ralentissement profond de l'économie, c'est qu'il y a des distensions internes au niveau politique qui sont beaucoup plus puissantes et beaucoup plus négatives que ce que beaucoup de gens imaginaient.
Donc, avec l'épisode de Bo Xilai.
Avec l'épisode de Bo Xilai et sa femme qui a été accusée de meurtre, et surtout Bo Xilai, qui visiblement essayait une forme de populisme, on pourrait le comparer à certaines personnes actuellement en France. Et donc, il avait mis sous écoute l'ensemble des membres du Politburo et ceux qui sont juste en dessous. Il s'était rapproché de l'armée, et donc il y avait vraiment des tensions très et fort. Des craintes d'un soulèvement militaire. Et donc, il a été immédiatement mis à l'écart. Et Wen Jiabo, en parlant de Bo Xilai, a dit « la possibilité d'un retour de la révolution culturelle » pourrait se faire avec des individus de cet ordre. Donc, vous voyez bien que la complexité dans l'analyse de ce qu'on fait de la Chine n'est pas du tout cette transparence où vous avez une dictature qui va dans le bon sens. Il y a des distensions internes au sommet du pouvoir qui sont très fortes.
Et alors, Pierre Sabatier, comment voyez-vous l'évolution justement de ces équilibres, semble-t-il, subtils au niveau du pouvoir politique ? Confronté à ce que vous développez, on n'y revient pas tout de suite, on laissera nos auditeurs le découvrir, bien sûr, à toutes ces contradictions, environnement, agriculture, une vaste dégradation, une croissance et démocratie qui ne vont pas ensemble, et un pouvoir unique avec une logique capitaliste totalitaire.
Absolument. Alors, je pense qu'ils ne pourront, entre guillemets, concevoir l'avenir qu'à partir du moment où ils feront le constat que le modèle de croissance qu'ils ont utilisé au cours des 30 dernières années est un modèle obsolète. Obsolète parce qu'il est d'abord l'héritage de la seconde révolution industrielle. Notre vieux modèle industriel, très consommateur en énergie, sauf qu'on prend conscience aujourd'hui de la nouvelle finitude du monde, finitude en termes énergétiques, en termes de matières premières. Et donc l'ensemble de ce modèle de croissance, beaucoup tourné vers la construction, consomme trop et arrive aujourd'hui, touche ses limites et ne pourra pas perdurer telle quelle sans changement profond qui nécessiteront d'abord de l'innovation et des avancées technologiques majeures. Et notre propos fondamental, c'est que les Chinois aujourd'hui doivent faire face à un verrou d'étranglement extrêmement profond pour postuler à l'innovation et à des avancées technologiques. C'est qu'on constate historiquement, de manière très factuelle et statistique, qu'il y a un degré très fort entre croissance, innovation et démocratie.
Voilà, c'est ça. Mais innovation et démocratie, est-ce que c'est compatible avec un système unique ?
Là, vous posez une question auquel nous ne risquerons pas de répondre. Mais
nous verrons par la suite.
Voilà,
mais
pour qu'on ait, nous
c'est,
ayons...
C'est quasiment antinomique. L'innovation, elle repose sur la...
Pour que puisse arriver les avancées technologiques, il faut des contre-pouvoirs. Et le problème consubstantiel de ce modèle-là, c'est qu'il ne laisse pas la place aux contre-pouvoirs.
Prenez l'exemple de la Californie. Ce n'est pas le hasard si toutes les innovations viennent de cette partie des États-Unis où véritablement, on prend l'exemple de Steve Jobs qui se promenait, alors il ne faut pas se promener pieds nus avec une djellaba pour pouvoir être innovant, mais en soi, vous aviez des contre-révolutionnaires qui étaient là, et l'innovation a eu lieu. Dans un système, une dictature comme la Chine, vous avez la possibilité d'avoir une innovation, mais c'est une innovation de copie, et donc vous n'avez pas des innovations de rupture. Elles n'existent qu'essentiellement dans les pays occidentaux, parce que justement, vous avez une démocratie et la capacité de pouvoir critiquer.
Voilà, alors c'était les convictions de notre duo d'auteurs Jean-Luc Buchalet et Pierre Sabatier qui ont fait paraître chez Erol un ouvrage dont le titre est très attrayant, « La Chine, une bombe à retardement », édition Erol, 161 pages, 16 euros. Je précise que cet ouvrage sera le thème d'une conférence qui va se dérouler dans les prochains jours à l'amphithéâtre Tisserand AgroParisTech, rue Claude Bernard à Paris, sur le thème « La Chine, le prochain signe noir de l'économie mondiale », avec bien entendu une séance de signature de nos deux co-auteurs et les interventions d'une palette de spécialistes, dont Antoine Brûlé, qui a fait paraître lui aussi, qui a été mention d'honneur du prix Turgot, François Meunier, qui est le past président de la DFCG, Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts, et donc nos deux auteurs. Donc rendez-vous le 14 juin 2012, de 18h à 20h, pour une conférence sur ce thème qui est repris dans cet ouvrage. Voilà, donc c'était les convictions de nos deux auteurs. Messieurs, merci encore. Bravo pour ce que vous faites et à une prochaine rencontre.
Merci. Merci.